Il est 22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Attention, Zidane, but! But de Zidane! But de Zidane! Oh! Oh! Zizou! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là?
Cette voix inoubliable, celle d'Eugène Saccomanno qui nous a quittés ce lundi à 83 ans, voix indissociable d'Europe 1 bien sûr, où il a partagé avec vous, avec nous, sa passion pour le sport pendant 40 ans. On lui en rend hommage bien sûr dès le début de ce journal.
L'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui n'est donc pas inédit. Les questions que nous nous posons ne sont ni nouvelles ni scandaleuses.
Édouard Philippe relance la piste de quotas sur l'immigration. Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, reconnaît le Premier ministre. On l'entendra, on écoutera également l'opposition qui lui répond. Des militants écologistes mobilisés cet après-midi à Berlin, mais aussi à Paris, pour un grand mouvement de désobéissance civile.
Le but, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'urgence climatique. Les actions coup de poing sont là pour soulever l'urgence.
Opération de blocage, notamment dans la capitale, du côté de la place du Châtelet, où les manifestants ont l'intention de passer la nuit. L'ONU se prépare au pire après la décision de Donald Trump de retirer ses troupes du nord de la Syrie. On sera aux États-Unis avec Xavier Yvon. Et puis les miracles de la science. Des chercheurs français ont permis à un tétraplégique de marcher de nouveau grâce à un exosquelette piloté uniquement par la pensée.
J'avais pas marché depuis 2 ans. Ça a été à la fois un bouleversement et une première porte vers un monde que je pensais inaccessible, une renaissance.
Les progrès de la science qui permettent à cet homme de remarcher, on fera connaissance avec lui grâce à Jean-Luc Boujon. Du côté du ciel, une perturbation arrive par l'ouest. Elle va traverser la France demain et avec elle de belles averses. N'oubliez pas votre parapluie et ne manquez pas surtout les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Stéphane Palaise. Elle est la présidente de la Française des Jeux qui se prépare pour la privatisation.
Europe 1.
C'est une voix que tous les auditeurs d'Europe 1 connaissaient bien, celle d'Eugène Saccomanno, voix emblématique qui s'est donc éteinte cet après-midi. Eugène Saccomanno avait 83 ans, journaliste à Europe numéro 1 dès 1960 et jusqu'en 2001. Il a accompagné les plus grands événements sportifs, notamment le titre de la France lors de la Coupe du Monde 1998. Au commentaire, ce soir-là, aux côtés de Pierre-Louis Basse, avec sa voix. Et quelle voix !
Petit qui va marquer le troisième but ! Et troisième but, 3-0 ! Avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3-0, on les a assommés, on les a renversés.
Ah, cette voix, Eugène Saccomanno ce soir-là, aux côtés de Pierre-Louis Basse, son complice, son ami, forcément bouleversé ce soir.
C'est plus qu'un compagnon de route qui s'en va. J'ai été heureux de le revoir à deux reprises. D'abord, très présent, même s'il était fatigué cet été. J'étais allé à Rueil. Nous avions passé un bon moment. Et puis, c'est allé très vite. Je l'ai revu dimanche. Mais c'était une façon de le dire au revoir. Il n'était déjà plus avec nous. C'était un homme à la fois. Ça n'était pas seulement un homme truculent à l'antenne et une voix. On a couvert 3-4 Coupes du Monde ensemble, plusieurs Jeux Olympiques. Et je ne sais pas si la vie est une farce et qu'il faut la vivre jusqu'au bout, mais de savoir qu'il n'est plus là. Voilà. Je voulais vous dire un mot parce que c'est Europe 1. Parce que c'était sa maison qu'il l'aimait. Voilà, c'est tout ce que je puis vous dire ce soir.
L'émotion très vive de Pierre-Louis Basse ce soir. La voix du foot est à faune, écrivent ce soir joliment nos confrères du Point. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1 et vous connaissiez bien évidemment Eugène Saccomanno. C'était un super journaliste sportif évidemment avec une carrière unique.
Oui, et quand il a commenté pour Europe 1 en 1993 le but de Basile Boli qui offrait la Ligue des Champions à l'OM, Eugène Saccomanno a bouclé l'une des nombreuses boucles de sa vie foisonnante, car c'est à Marseille que tout avait commencé pour lui au début des années 60, une période foisonnante de reportage pour Europe 1 et d'amitié avec un jeune apprenti journaliste nommé Philippe Séguin. Puis, c'est le livre qui change tout, Bandit à Marseille, qui lève un voile impudique sur le milieu et sera adapté au cinéma sous le nom de Borsalino. Sacco est invité à quitter la ville. Il trouve refuge à Paris, à Europe 1, donc, où il couvre les attentats des JO de Munich et d'Atlanta avant de s'occuper de football. Saint-Etienne, les Bleus, l'Euro 84, l'OM, la Coupe du Monde 98, on l'a entendu. Les plus grands moments du sport français, il les a fait vivre aux auditeurs d'Europe 1 avec sa voix unique et cette théâtralité qui ne tenait qu'à lui. Le foot, c'était un spectacle qu'il fallait faire vivre comme tel. Il en a fait d'ailleurs la première émission quotidienne à la radio sur Europe 1. C'était aussi Une passion, mais pas la seule. Sacco était un fou de littérature. De Céline, Louis Ferdinand, de Giono, il laisse de savoureux bouquins sur le sujet. Un fou de cinéma aussi, épicurien, gastronome. Des souvenirs ineffaçables de dîners où il refaisait le monde avec les gestes d'un acteur, tantôt grave, tantôt comique. Comme Céline, Sacco aimait à dire qu'on avait besoin de musique pour faire danser notre vie. Ben nous, on n'est pas prêts d'oublier celle qu'on a eu la chance de vivre à ses côtés.
C'est vrai qu'on ne s'ennuyait jamais avec lui. Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et on a bien sûr une pensée émue ce soir pour Eugène et pour ses proches.
Europe 1, Isabelle Millet.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h06. Édouard Philippe a donc ouvert cet après-midi le débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron pour fixer le cap de la politique migratoire en France. Débat sans vote, mais sujet hautement sensible qui divise jusque dans la majorité. Édouard Philippe qui s'est dit ouvert à une réflexion sur les quotas.
Depuis 2 ans, nous menons une politique d'immigration sans coup de menton et sans naïveté. La lutte contre l'immigration irrégulière gagne progressivement en efficacité et donc en crédibilité. Les éloignements ont augmenté de 10% au cours de l'année dernière et de 20% en 2 ans. Mais clairement, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Nous devons poursuivre nos efforts et faire mieux.
Jean-Rémy Baudeau, on vous retrouve en direct de l'Assemblée nationale. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Isabelle.
Avec donc cette prise de parole, on vient de l'entendre, du Premier ministre en préambule, suivie de celle d'une opposition plutôt très critique, d'un extrême à l'autre.
Oui, c'était un long débat, plus de 4 heures devant un hémicycle clairsemé. Moins de la moitié des députés étaient présents aujourd'hui. Sans surprise, l'opposition a dénoncé un débat sans intérêt, du blabla, selon Nicolas Dupont-Aignan. 27 orateurs en tout à la tribune de l'Assemblée face au Premier ministre. Selon le socialiste Luc Carvounas, la majorité fait le jeu de l'extrême droite. Le centriste Lagarde critique la faiblesse des reconduites à la frontière. Jean-Luc Mélenchon, dans un numéro d'éloquence, comme on les lui connaît, s'en est pris violemment à la gestion migratoire du gouvernement. Mais c'est peut-être Marine Le Pen qui a fait le plus de bruit, la présidente du Rassemblement national dans le registre de la provocation.
Ce débat parlementaire et au-delà ce débat dans la société, les nationaux l'ont imposé. Mais que de temps perdu! Alors que notre pays vit une véritable submersion. Oui, une submersion, j'ose le terme, car il décrit la réalité de flux ininterrompus qui déferle sur nos villes, sur nos bourgs et maintenant avec votre politique irresponsable d'implantation rurale de migrants jusqu'au moindre village.
Voilà, un débat sans vote que le Premier ministre a conclu en rappelant qu'il était difficile d'avoir un consensus ainsi que des discussions nuancées, mais il a acté un point. Personne ne pense que l'immigration est un sujet conjoncturel, a-t-il dit. C'est peut-être la victoire de ce débat, replacer l'immigration non comme un fantasme, mais comme un fait à traiter.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau, vous étiez en direct de l'Assemblée nationale. Jean-Rémy du service politique d'Europe 1 est parmi les sujets évoqués dans ce débat sur l'immigration. L'AME, l'aide médicale d'État qui bénéficie aux étrangers sans papier. La ministre de la Santé a défendu ce système. Oui, a-t-elle dit, en France, on ne laisse pas des personnes périr parce qu'il leur manque le bon tampon sur le bon document. Mais elle a aussi annoncé un plan de lutte contre les fraudes. 4 jours après la tuerie à la préfecture de police de Paris, Christophe Castaner va devoir s'expliquer d'abord à huis clos demain devant la délégation parlementaire au renseignement, puis devant le Sénat, et répondre à cette question. Comment se fait-il que le tueur n'ait pas fait l'objet d'un signalement alors que certains de ses collègues avaient fait remonter des signes d'une potentielle radicalisation, sujet également évoqué cet après-midi à l'Assemblée. L'opposition réclame des comptes. Notez que l'épouse de Michaël Harpon a été remise en liberté aujourd'hui après 3 jours de garde à vue sans être poursuivie à ce stade. L'actualité, c'est aussi la nouvelle action choc du mouvement écologiste Extinction Rébellion. Cet après-midi, notamment à Paris, comme dans 60 autres villes sur la planète, des blocages sur la place du Châtelet, au centre de la capitale. Les manifestants ont même l'intention de dormir sur place et de rester plusieurs jours. Ils ont déployé des tentes. Ils dénoncent l'inaction des gouvernements en matière de réchauffement climatique et veulent un mouvement pérenne, à l'image d'Adrien, rencontré tout à l'heure par Yasmina Katou.
On est dans le constat que les politiques ne font pas du tout ce qu'il faut pour que nos enfants puissent vivre sur cette planète et qu'on a envie d'avoir des enfants si on n'en a pas déjà. Il va y avoir des agriculteurs qui vont venir, il y aura des formations à la permaculture pour que chacun puisse faire son petit potager, il y aura certainement des formations au compost, il y aura des formations au premier secours aussi, plein de choses, des assemblées citoyennes, des discussions sur comment on fait pour rendre notre système viable pour la planète sans retourner à la bougie parce que c'est pas ce qu'on veut. Tous les scientifiques nous disent depuis longtemps, attention, si on continue comme ça, c'est la cata. Là, ils sont en train de nous dire, oh là là, c'est encore plus la cata que ce qu'on pensait. Du coup, bah, il faut agir, quoi. Et les solutions ne manquent pas, il y a plein d'idées. Et on n'en développe aucune actuellement par notre cher gouvernement.
Adrien, vous êtes parti pour rester combien de temps, là ?
La rébellion d'octobre, c'est 1 semaine. Donc quoi qu'il arrive, à la fin de la semaine, on démonte, on se barre. C'est pas dit qu'on reste toute la semaine.
Voilà Adrien au micro de Yasmine Akatou. Des actions similaires ont eu lieu aujourd'hui un peu partout, notamment à Londres ou encore à Berlin. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et la Turquie prête à intervenir au Kurdistan syrien. Trump, à l'origine de cette situation, promet d'anéantir l'économie turque si Ankara dépasse les bornes. A tout de suite. Il est 22h11, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et l'ONU se dit ce soir d'y craindre une nouvelle crise humanitaire alors que Donald Trump a décidé ce matin de retirer toutes ses troupes du nord de la Syrie. Les experts et notamment l'ONU redoutent désormais une offensive de la Turquie contre les forces kurdes qui occupent cette région. La France craint que cela ne contribue même à une résurgence de Daesh. Et même aux États-Unis, Xavier Yvon, avec cette décision, Donald Trump fait quasiment l'unanimité contre lui.
Oui, c'est vrai, c'est la stupeur même dans son propre camp. On parle de grave erreur, de désastre, stupeur même chez son plus fidèle allié au Congrès, Lindsey Graham, qui d'ailleurs d'habitude le défend sur tous les dossiers. Et bien cette fois, le sénateur de Caroline du Sud est allé dire tout le mal qu'il pensait de cette décision et où ? Eh bien dans l'émission préférée du président, la matinale de Fox News.
Donc les Kurdes ont répondu présent quand personne d'autre n'était là pour combattre Daesh. Et si maintenant on les abandonne, bonne chance pour trouver des alliés pour aider l'Amérique dans le futur contre l'islam radical. C'est une grande victoire pour l'Iran, Assad et l'État islamique. J'aime le président Trump, j'essaye de l'aider et j'espère que je suis assez clair, c'est une décision de court terme irresponsable.
Et l'influent sénateur prévient, il va tenter de faire voter par le Congrès une résolution pour annuler l'ordre présidentiel, c'est dire. Donald Trump, lui, se justifie tout seul, comme d'ordinaire, par une flopée de tweets pour dire, en somme, je tiens ma promesse d'en finir avec les guerres ridicules et sans fin, je laisse les Kurdes et les Turcs, je cite, régler la situation. Quand on connaît l'antagonisme entre les deux, ça fait craindre le pire. Et face à cette levée de bouclier, Donald Trump vient de réagir. Il menace maintenant la Turquie de détruire son économie, si jamais, comme il l'écrit, elle dépassait les bornes.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et je voulais qu'on revienne maintenant sur cette prouesse de chercheurs français qui ont mis au point une innovation qui pourrait changer la vie de milliers de paralysés. Ils sont parvenus à faire remarcher un tétraplégique. On vous avait parlé il y a quelques jours sur Europe 1 de cet exosquelette créé à Grenoble à l'Institut Clinatech. Eh bien, Jean-Luc Boujon, vous avez rencontré aujourd'hui son premier bénéficiaire. Paralysé des quatre membres, il pilote cet exosquelette uniquement par la pensée.
Oui, grâce à des implants qui ont été placés dans le cerveau du patient, lui a ouvert le crâne tout simplement. Thibaut, tétraplégique suite à un accident, a donc été opéré il y a 2 ans. Et avec son accord évidemment, on lui a implanté ces électrodes capables de restituer l'impulsion électrique du cerveau lorsqu'il donne un ordre au corps. La restituer à distance ici, hein, grâce à des fréquences radio, pour commander cet exosquelette. Le professeur Louis Alim Benhabit, qui dirige cet essai clinique, a une image très simple pour expliquer ce qui se passe.
C'est un peu comme les armures du Moyen-Âge. Le bonhomme, il est dans l'armure, sauf qu'à l'époque, c'était lui qui faisait bouger l'armure. Et là, c'est l'armure qui fait bouger le chevalier.
Et voilà donc ce que Thibaut peut désormais faire.
Il me permet de marcher, de bouger les bras en 3 dimensions, sans me fatiguer. Et là, très prochainement, pouvoir ouvrir et fermer les mains.
Ça a été quoi les premières impressions quand vous avez vu votre corps bouger et répondre aux ordres que vous lui donniez?
Ça a été comme le premier homme sur la Lune, quoi, réussir à faire un pas, puis un autre, alors que j'avais pas marché depuis 2 ans. Ça a été à la fois un bouleversement et une première porte vers un monde que je pensais inaccessible, une renaissance.
Voilà, alors la prochaine étape, c'est pouvoir installer cet exosquelette à domicile, hein, pour un usage quotidien. En tout cas, d'autres patients vont le tester dans les prochains mois. Et l'espoir, c'est qu'il soit opérationnel et accessible à tous les patients qui en ont besoin sous à peu près 5 à 10 ans.
Et c'est totalement fascinant. Jean-Luc Boujon à Grenoble pour Europe 1, des chercheurs qui mériteraient à coup sûr un prix Nobel. Celui de médecine a justement été remis aujourd'hui à 2 Américains et 1 Britannique récompensés pour leur découverte sur l'adaptation du corps au manque d'oxygène qui ouvre des perspectives prometteuses dans le traitement du cancer et de l'anémie. Prochain Nobel demain, celui de la physique. En rugby, le club de Montpellier condamné à 470 000 euros d'amende pour dépassement du salary cap en 2017. Il s'agit de la masse salariale maximale autorisée par la fédération. En foot, on a appris tout à l'heure que Lyon avait décidé de se séparer de son entraîneur brésilien Silvinho, qui était en poste depuis le début de la saison, éjecté au lendemain de la défaite de l'OL dans le derby face à Saint-Etienne. Et puis nouvelle tuile pour les Bleus, le gardien et capitaine Hugo Lloris, blessé au coude avec Tottenham, sera absent jusqu'à la fin de l'année et donc notamment en Islande vendredi, match de qualification pour l'Euro. Et on jette un œil tout de suite sur la météo de ce début de semaine avec vous, Anissa Haddadi. Demain, en tout cas, Anissa, ça s'annonce humide. Hein.
Et oui, Isabelle, et ce temps humide de demain, il est dû à la perturbation qui est en train d'arriver par l'ouest. D'ailleurs, il pleut actuellement sur l'ouest du pays. Et bien, cette perturbation, demain, elle va traverser tout le nord, avec sur les Pays de la Loire, l'Île-de-France, les Ardennes et l'Alsace, des pluies soutenues demain dès le lever du jour. À l'arrière de cette perturbation, sur le nord, sur la Normandie, la Manche, la Bretagne, là le ciel est nuageux, mais le temps reste sec. Et c'est à l'avant de cette perturbation, sur les Alpes, la Côte d'Azur, la région lyonnaise, le bassin méditerranéen, le Languedoc-Roussillon, le Périgord, l'Occitanie, c'est là que le ciel est le plus dégagé, avec demain après-midi de belles périodes ensoleillées. Les températures, un peu comme sur la carte, c'est-à-dire qu'elles sont fraîches au nord, là où il y a des nuages, et beaucoup plus douces au sud sous le soleil, 4 à 15 degrés le matin du nord au sud d'Aurillac à La Rochelle. L'après-midi, les températures sont très agréables au sud. Sous le soleil, nous aurons 27 degrés à Mont-de-Marsan, 26 à Nîmes et Toulouse, 25 à Saint-Étienne, 24 à Clermont-Ferrand, Lyon et Marseille, 21 degrés à Limoges, 18 à La Rochelle, 19 à Sochaux et 16 degrés pour Paris.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Lydia Mo de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux qui se prépare pour la privatisation. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous Didier Amaud, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute la semaine sur une note encore hésitante.
Au point mort quasiment, oui. Wall Street très prudente, à l'écoute de la situation en Syrie, en particulier après la décision, vous en parliez à l'instant, de Donald Trump de retirer les troupes américaines. Ça inquiète beaucoup le marché. Le Dow Jones recule de 0,36%, 26 478 points. Le Nasdaq 7,033%, 7 956 points. Beaucoup de craintes, beaucoup d'indécisions. Avec des valeurs de technologie qui retombent un petit peu. Intel, moins 0,5%, Microsoft, moins 0,6%, IBM, moins 1,1%, Google, moins 0,2%. Il y a quand même Apple qui résiste, stable, au-dessus des 227 $. Cisco gagne aussi 0,6%. Et puis Uber, le groupe VTC, remonte de 3% à plus de 30 $, 30,50 $, aidé par un avis positif du broker Citigroup. Le pétrole est stable, ça ne bouge pas autour des 53 $ le baril. L'euro remonte très légèrement, vraiment légèrement, à 1,0975. Il n'arrive pas à repasser les 1,10 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle a aligné une troisième séance de hausse consécutive.
Oui, ça se passe bien. Hein. Plus 0,6%, ça remonte un petit peu. Encore plus 0,61%, 5 522 points. C'est tout le paradoxe du moment. Plus les indicateurs économiques sont mauvais, et ils le sont depuis quelques jours, eh bien, plus les marchés remontent, tout simplement parce qu'ils attendent de nouveaux gestes d'assouplissement monétaire des banques centrales. Cela explique le rebond qui se prolonge pour les valeurs industrielles. Recilex, plus 3%, Lafarge-Holcim, plus 2,5%, Suez, plus 2,5% aussi, Eramet, plus 2%, et puis les pétrolières se reprennent un petit peu, CGG, plus 3%, Vallourec, plus 1%, Total, plus 0,5%.
Exception du jour, Didier. Publicis qui reste à la traîne.
Très décevant, toujours en recul de 2,2%. Publicis, 42,56 €. Cette fois, c'est le broker Morgan Stanley qui a dégradé le dossier en ne visant plus qu'un cours de 38 € sur Publicis dans un marché publicitaire toujours hyper concurrentiel. Sur les autres places financières en Europe, ça remonte un petit peu sur le DAX à Francfort, plus 0,7%. Bruxelles, plus 0,5%. Madrid, plus 0,9%. Un rebond quasi général. Pas très spectaculaire, mais un rebond quand même. Milan, plus 0,8%. Et donc le CAC 40 à Paris, plus 0,61%. 5 522 points.
Merci pour ce tour d'horizon. Didier Amaud de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité écho.
L'invité écho avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir la présidente de la Française des Jeux.
Bonsoir Stéphane Pallez.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes la présidente de la Française des Jeux et vous allez bientôt être privatisée. Alors quand on parle de privatisation, on parle surtout d'Aéroports de Paris qui va être aussi privatisé. On a l'impression que ça ne passe pas. Il y a un gros énervement. Il y a un référendum d'initiative partagée. On est presque à 1 million de signatures. Vous, on ne parle pas de vous. Pourquoi ça ne pose pas de problème, la privatisation de la Française des Jeux ?
Le débat a eu lieu, notamment pendant le débat parlementaire. Et ce qui est très important, c'est qu'à l'occasion de ce débat, donc le gouvernement a effectivement annoncé son intention de céder 50% du capital, de rester actionnaire à hauteur de 20%, et aussi de mettre en place une nouvelle autorité de régulation, un nouveau cadre de régulation pour répondre aux inquiétudes qui est-ce que privatisation pourrait signifier une régulation des jeux plus laxiste, ce qui évidemment ne peut pas être le cas. Et donc maintenant, on se prépare à l'opération.
À quoi ça sert une telle privatisation ?
Alors, c'est une question qu'il faut poser à l'État. Bruno Le Maire a été très clair. Lui, ce qu'il a dit, c'est l'État n'a pas forcément vocation à être l'actionnaire majoritaire d'un opérateur de jeux d'argent. autour de nous, déjà en France, les autres acteurs de jeux d'argent sont privés. Et à l'étranger, les grands opérateurs de jeux d'argent, aujourd'hui, sont en fait beaucoup privés également. Donc ça, c'est l'État n'a pas vocation à être actionnaire dans ce secteur, en tout cas dans le long terme. Et par ailleurs, l'État peut faire le choix de récupérer un produit de cession pour des investissements d'avenir. Troisième élément dans ce que dit Bruno Le Maire et qui me paraît tout à fait important, c'est de dire qu'une privatisation, ça peut être aussi l'occasion d'associer les Français à une belle histoire d'une entreprise comme la Française des Jeux.
Voilà, le gouvernement veut que ce soit une vraie opération publique. Il va y avoir un gros bout pour les Français. Il va également y avoir une part importante pour les collaborateurs. Comment on fait que ce soit une opération populaire ?
Il y aura une tranche qui leur sera réservée, qui sera très significative, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est une entreprise qui est connue des Français, qui a donc un Français sur deux comme client, qui a une bonne notoriété. Donc ça, c'est déjà les atouts de l'entreprise en tant que telle, et qui surtout a un profil financier qui est une croissance stable et régulière. Donc nous l'espérons, un bon placement financier durable.
Mais c'est
durable.
Un vrai défi quand même pour vous, patronne de la Française des Jeux, de réussir à convaincre le grand public de venir, puisque on sait que la bourse fait peur aux Français, les dernières opérations n'ont pas été obligatoirement très très bonnes pour le grand public. C'est dur quand même de se dire, il faut que j'arrive à convaincre les gens.
Il faut surtout leur dire la vérité. Hein. Donc moi, ce à quoi je m'emploie, c'est que l'entreprise soit prête et soit prête à donner des perspectives qui soient des perspectives à la fois attractives, notamment en termes de distribution de dividendes, et avec une bonne récurrence de sa croissance et de ses résultats. Et ensuite, ce que les particuliers auront, c'est donc une tranche spécifique et des avantages spécifiques pour les particuliers, probablement une décote et des actions gratuites. Et ça, c'est ce qui reste à décider et ce qui sera annoncé dans quelques temps par l'État. Donc, une fois que tous ces éléments seront sur la table, je pense qu'on pourra expliquer aux Français, pour qu'ils se décident en connaissance de cause, quel type de placement c'est. Et après, à chacun de faire ses choix. Il ne faut pas, je vais dire, pousser les gens, mais il faut qu'ils comprennent bien le cas d'investissement. Et je pense qu'on sera un bon cas d'investissement.
Et pour le moment, c'est une entreprise qui se porte bien. Vous avez présenté ce matin vos résultats pour les premiers mois de l'année. Et notamment, les jeux de tirage sont en pleine forme.
Croissance très dynamique, puisqu'on a 7% de croissance de notre chiffre d'affaires à date. Et en fait, toutes nos activités se portent bien aujourd'hui, et avec effectivement un phénomène exceptionnel sur les jeux de tirage. Je dis exceptionnel parce que là, il y a une petite part de chance dans le fait que nous avons eu des jackpots très élevés, en particulier sur l'Euromillion, qui n'ont pas encore été gagnés. Et donc, demain soir, mardi, aura lieu un nouveau tirage de l'Euromillion qui est à son plafond. Il sera forcément gagné, puisqu'en fait, dans la règle qu'on s'est imposée, puisqu'il n'a pas été gagné les fois précédentes, soit il est gagné à 190 millions, et ça serait un record si un Français le gagnait, puisque le dernier Français qui a gagné 169 millions, soit il sera distribué sur les rangs en dessous, ce qui fait encore de très jolis gains. Donc évidemment, ça nous a donné une dynamique sur l'Euromillion et sur l'auto aussi, où on a eu le même type de phénomène qui a été très, très bonne. Mais on est aussi, encore une fois, en croissance sur nos jeux instantanés et sur les paris sportifs, qui sont un marché aussi qui est en croissance dans l'ensemble et sur lequel nous sommes en forte croissance nous-mêmes.
Ça pourrait être une forme de record en termes de joueurs qui pourraient s'intéresser à l'Euromillion ?
Ça pourrait.
Vous disiez, il va falloir qu'on réussisse à convaincre, il va falloir qu'on explique. Mais c'est début novembre, la privatisation, c'est demain ?
Nous nous préparons activement et que dans peu de temps, si nous décidons effectivement de lancer cette opération avec l'État, nous serons en mesure...
Il n'y a plus de doute aujourd'hui.
Mais vous savez, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Hein. Ça, c'est le bon sens qu'on doit avoir. Donc, nous faisons tout pour être prêts, d'avoir une très forte et une très bonne communication sur ce qu'est l'entreprise, sur ses perspectives. Donc, nous préparons tout ça et dans quelques semaines, nous serons certainement en mesure de le faire si tout va bien, c'est-à-dire si les conditions de marché le permettent.
Parce que, mais on par est contre, toujours sur début novembre, pas, comme l'avait annoncé Bruno Le Maire sur l'antenne d'Europe 1.
On espère toujours la faire avant la fin de l'année, c'est-à-dire effectivement en novembre, si les conditions de marché le permettent.
Vous le disiez, hein, parmi les dispositifs qui ont été mis en place, il y a une autorité de régulation des jeux qui vient d'être créée. Hein, c'était la semaine dernière en Conseil des ministres. À quoi ça sert véritablement ces autorités de régulation des jeux ?
C'est très important puisque nous sommes un secteur qui est un secteur régulé, puisque dans le domaine des jeux, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et on a vu les questions pendant le débat, il est très important qu'il y ait une très bonne mise en œuvre de cette régulation, contrôle de cette régulation, sur l'ensemble des opérateurs. Et ce qu'on va avoir en matière de jeu, c'est pour la première fois, effectivement, une autorité nationale des jeux, c'est-à-dire qui est compétente sur pratiquement l'ensemble des secteurs de jeux d'argent, à la fois la partie en monopole qui est chez nous, mais aussi le monopole du PMU, mais aussi les paris en ligne. Donc, pour la première fois, on a une autorité nationale avec des pouvoirs étendus dans un cadre de régulation qui a été totalement réécrit et codifié, qui est extrêmement transparent, ce qui est normalement le standard d'un secteur régulé.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux était notre invitée ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
À demain évidemment. Merci à vous Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.
Europe 1.
Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. La photo d'une femme kurde à la une de Libération avec ce titre « Trump et la Syrie, les Kurdes sacrifiés ». Syrie, Irak, Afghanistan, le grand fiasco américain, titre pour ça par le Figaro. Au 18e anniversaire du lancement de la guerre en Afghanistan, Donald Trump laisse le champ libre à la Turquie dans le nord de la Syrie et à l'expansionnisme des milices pro-iraniennes en Irak. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy revient quant à lui sur le débat sur l'immigration à l'Assemblée qu'on évoquait dans le journal tout à l'heure. L'immigration, écrit-il, est par définition un sujet sensible, mais aux interrogations légitimes risquent bien de se confronter des réponses très orientées qui, en tout état de cause, ne seront pas concentrées sur le fond, mais sur l'utilisation qui pourrait être faite du sujet en vue des municipales, avec en vue la présidentielle et un possible nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. SNCF, le vrai coup pour les contribuables, titre le journal L'Opinion. Les subventions accordées par l'État et les régions au groupe ferroviaire ont atteint 15 milliards d'euros l'an dernier, selon une étude dévoilée en exclusivité par le journal. Banque, où s'arrêtera l'hémorragie des emplois ? S'interroge Daniel Fortin dans Les Échos. C'est la dernière en date. HSBC aurait décidé de supprimer 10 000 emplois supplémentaires, en visant particulièrement ses cadres en Europe. En août dernier, le géant britannique avait déjà annoncé la suppression de 4 000 postes. S'il est une explication commode et réelle, le Brexit est loin d'être la seule source de cette restructuration. Les taux bas, la robotisation ou encore le déplacement des sources de profit vers l'Asie imposent cette réduction de coûts à marche forcée, malgré le paradoxe d'un bénéfice net de 8,5 milliards de dollars au premier semestre. Et Daniel Fortin nous rappelle que la banque anglaise n'est du reste pas la seule à anticiper la fin de l'âge d'or dans le secteur financier. Et puis les agriculteurs à la reconquête des Français, c'est-à-dire dans le journal La Croix, confrontés aux critiques et aux actions violentes, le monde agricole veut renouer le contact direct avec les citoyens. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et à tout à l'heure, 23h pour un nouveau point sur l'info.
Exactement, à tout à l'heure.